Salut, bonjour à tous et bienvenue chers auditeurs.
Bonjour.
Vous êtes sur Culture Flip, l'émission culture à 360 degrés. Vous êtes bien sur Radio Gaco, une émission produite et réalisée par les étudiants de DUT Gestion Administrative et Commerciale de l'IUT du Littoral Côte d'Opale à Saint-Omer. Aujourd'hui, on va aborder des sujets très différents. Faisons un tour de table de nos chroniqueurs qui vont évoquer brièvement leur sujet.
Bonjour, je suis Alice Miblet. De nos jours, de nombreuses actions sexistes sont présentes sur les lieux de travail. Les victimes ont décidé de s'exprimer sur ce sujet anciennement tabou.
Bonjour, je suis Louise Van Kemmel et on se retrouve aujourd'hui pour parler un peu de mode, des critères de beauté, des conditions de travail et des évolutions dans ce milieu.
Bonjour, je suis Yélis Pekel, je vais vous parler de cinéma. Le Covid a balayé beaucoup de choses sur son passage. Évidemment, le 7e art est touché de plein fouet par les contraintes sanitaires, mais aussi par des concurrents qui sont en ligne.
Bonjour, moi c'est Brian et je vais vous parler de l'influence durable dans notre société actuelle, que ce soit au niveau de la mode, du sport, ainsi que de l'essor du rap aux États-Unis.
Très bien, ainsi on commence avec Alice, avec un sujet qui émerge et qui peine à se faire entendre. L'harcèlement dans le milieu du travail.
Exactement Yélise, comme nous le savons ou pas, de nos jours de nombreuses actions sexistes sont présentes sur les lieux de travail. Les victimes ont décidé de s'exprimer sur ce sujet anciennement tabou en racontant leur témoignage. Un documentaire diffusé sur France 2 représente bien ce sujet. Réalisé par la journaliste Andrea Rawlins-Gaston, ce documentaire nommé « Harcèlement sexuel au travail, l'affaire de tous » reprend les témoignages de six femmes victimes d'harcèlement sexuel au travail. On y explique également ce qui et ce qui n'est pas du harcèlement.
Et est-ce que tu peux nous expliquer en clair ce qu'est le harcèlement sexuel ?
Le harcèlement sexuel est un enchaînement d'agissements malveillants à connotation sexuelle dont la répétition peut toucher psychologiquement la victime. De nos jours, il y a énormément de victimes. Généralement des femmes qui se font chambrer par leurs collègues et ou supérieurs sur des choses comme leur tenue vestimentaire ou alors leurs membres corporels féminins comme leur poitrine ou leurs fesses. La parole des femmes se libère sur les réseaux sociaux grâce à des hashtags comme hashtag balance ton porc. Une étude réalisée par Odaxa pour le Figaro et France Info, plus d'une Française sur deux dit avoir déjà été harcelée sexuellement. Voici quelques phrases de témoignage. Il m'a sauté dessus comme un morceau de viande. Virginie, consultante, 34 ans. Il m'a dit, tu dois avoir tes règles en ce moment, tu as mis une culotte. Carole, comptable, 32 ans.
À noter quand même que les noms ont été modifiés, n'est-ce pas Alice ?
Oui, par souci de confidentialité. D'après le guide contre le harcèlement sexuel, il y a deux types d'harcèlement sexuel. Dans un cas de propos et comportements répétés et dans l'autre d'un fait unique. Une femme nommée Léa Bélanger a créé une planche de BD où elle raconte son expérience de harcèlement sexuel par l'un de ses collègues et comment elle a réussi à reprendre le contrôle face à cette situation en le dénonçant et en parlant à son entourage. Car maintenant c'est moi qui détiens le pouvoir sur lui. Ma revanche, c'est son épée de Damoclès au-dessus de sa tête. Fin de citation. Extrait, dernière image de la planche de BD.
Et le harcèlement moral dans tout ça ?
J'allais justement y venir. Une BD de Hubert Prolongo, nommée « Le travail m'a tué », raconte d'après une histoire vraie comment un homme brillant, travaillant avec passion, vivant avec une femme aimante et en étant père d'une petite fille, peut se retrouver écrasé par des pratiques managériales. Ce qui entraîna le suicide de ce dernier, cette BD bouleversante parle du monde du travail à l'intérieur d'une entreprise où les supérieurs ou collègues avec énormément de pouvoir peuvent se sentir parfois supérieurs à d'autres et en se permettant de détruire le moral de leur personnel et collègues. Le harcèlement moral se manifeste par des agissements répétés, une dégradation des conditions de travail de la personne visée pouvant aboutir à une atteinte de ses droits, une altération de sa santé physique ou mentale, ou une menace pour son évolution professionnelle.
Et excuse-moi de t'interrompre, mais j'ai une question. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le harcèlement moral est relié au harcèlement sexuel ?
Oui, en effet, on peut le dire. Puisque si un employé est harcelé sexuellement, il sera forcément touché moralement par cela. De tels actes peuvent avoir de fâcheuses conséquences. Celles qui ont le courage d'en parler à quelqu'un de leur entreprise ont un grand risque de perdre leur emploi. 95% des femmes qui dénoncent des faits de harcèlement sexuel perdent un emploi. Ce chiffre est scandaleux. Comment peut-on punir encore les victimes que celle-ci a déjà souffert? Cela peut entraîner de la dépression, des burn-out. De ce fait, les victimes ne veulent plus travailler ou ne peuvent plus pour préserver leur santé. Sur le plan physique, cela entraîne de la fatigue, douleurs, troubles du sommeil et de l'appétit. Sur le plan psychologique, de repli sur soi, de l'isolement. Et même cela peut avoir des conséquences sur la sphère sociale, incompréhension dans la sphère familiale, la perte de désir et d'intérêt dans le travail. Et bien d'autres encore de conséquences possibles, tellement que cela serait trop long de toutes les nommer. Si vous êtes victime d'harcèlement, parlez-en et appelez des numéros mis en place pour vous aider.
Bien, merci Alice. Ce harcèlement touche donc toutes les catégories, même le monde du mannequinat, monde qui fait rêver, tapis rouge, défilé haute couture et tenue glamour. On retrouve Louise qui va nous en parler brièvement dans sa chronique.
Tout d'abord, je vais vous présenter les différents critères pour être mannequin. Comme vous le savez, pour être mannequin, il faut être de grande taille. Entre 1m73 et 1m80, c'est l'idéal. Mais la taille n'est pas le seul critère. Il faut aussi être mince. Il y a différentes catégories de mannequins, telles musclées, sportives. Il faut avoir un beau corps ainsi qu'un beau visage et être en forme. Certains castings sont plus difficiles que d'autres, c'est-à-dire qu'ils n'acceptent que les filles entre 1m77 et 1m78 et qui font une taille 36. Être mannequin peut faire et les conditions de taille ne sont pas les plus évidentes. James Scully, un directeur de casting américain, a menacé de recourir aux réseaux sociaux pour dénoncer les maltraitances ou la discrimination à l'égard des mannequins. Suite à cela, plusieurs témoignages sont apparus. Le jour des sélections, 150 mannequins auraient été forcés de patienter plus de 3 heures dans l'obscurité d'une cage d'escalier. Pour de nombreux modèles, ces mauvaises conditions de travail font partie du quotidien. Souvent, l'attente s'effectue sans nourriture et sans eau. Le styliste a profité de tous les habillages pour bien me toucher, davantage que nécessaire. Je n'ai jamais oublié la sensation dégoûtante des mains de cet homme, dénonce Fernanda Lee, égérie de Louis Vuitton. De nombreux mannequins interrogés signalent aussi des traitements dégradants et des abus sexuels. Malheureusement, certains clients nous voient comme des poupées jetables, déclare une autre observatrice anonyme. Parlons de quelque chose de plus positif. Est-ce que les personnes n'ayant pas la même morphologie que les mannequins sont davantage mises en avant? Pas vraiment. Mais il y a quand même du changement et une avancée sur certaines marques inspirées par le mouvement Body Positive, qui est un mouvement social en faveur de l'acceptation et l'appréciation de tout type de corps humain. Connie Sobzak et Elizabeth Scott sont les pionnières du mouvement créé en 1996 aux États-Unis. Les grandes enseignes de prêt-à-porter et de lingerie sont en train d'évoluer et de se diversifier, mais ces différentes nouveautés sont surtout des arguments de marketing pour attirer de nouveaux clients et pour se racheter une bonne conscience et avoir une bonne image de marque. Par exemple, ASOS ne retouche plus les photos de leurs mannequins en laissant apparaître les vergetures, la cellulite, les cicatrices. Aussi, la célèbre marque de luxe Alexander McQueen a recruté deux nouvelles mannequins avec des formes qui ont présenté lors de la Fashion Week des pièces phares de la nouvelle collection. Acné, cicatrices, rondeurs, poils ou vergetures, tous ces éléments font partie de notre corps. Pourtant, sur Instagram, ces éléments sont souvent cachés, retouchés. Nous avons l'habitude de voir des corps parfaits, ce qui crée de nombreux complexes. Alors, de nombreuses Instagrammeuses brisent des clichés et souhaitent montrer la réalité que sur les réseaux, il est très facile de montrer que tout est parfait. Avec ses 7 millions d'abonnés, Céleste Barbé parodie des photos de stars et de mannequins sans les standards de beauté en étant naturelle et en osant se montrer en maillot de bain. Ou encore Coucou les Girls, qui est une influenceuse et youtubeuse qui assume son corps et ses formes sous ses posts Instagram ou sur ses vidéos YouTube et qui aide les femmes à s'accepter comme elles sont et à ignorer les critiques. Pour finir sur le sujet, je peux vous proposer deux différents livres. Le livre d'Yves Saint-Laurent, qui est un recueil photographique de défilés de toutes les collections de haute couture. C'est un hommage au couturier qui est devenu légendaire. Il y a plus de 1000 photographies dans ce livre. Et ensuite, le livre Relooking et ses techniques, qui aide à partir à la découverte de nous-mêmes, de notre corps ou encore de notre visage, et savoir comment l'accepter et nous mettre en valeur.
Bien, merci Louise pour ces références et merci à montrer la beauté sous différents angles, sujet très diversifiant et diversifié, que l'on rencontre forcément avec l'évolution et les changements complexes du monde année après année. Changement que connaît aussi un domaine touché de plein fouet par une autre thématique que le harcèlement au travail ou les standards de beauté et qui n'existait pas encore il y a quelques mois.
On a pour cela avec nous Yélis qui va nous parler des dangers que rencontre le cinéma ces derniers temps. Comme nous le savons, le Covid-19 a balayé beaucoup de plaisir sur son passage. Ce ne sont pas les amateurs et passionnés du 7e art qui vont dire le contraire.
Effectivement, ma chronique n'aurait pas pu exister il y a un an de cela, puisque tout allait bien dans le monde du cinéma. Aujourd'hui, on retrouve un mélange de déception, d'acharnement et de nouvelles idées pour pallier l'absence de certains divertissements. Notamment, une déception à l'annonce de l'annulation du Festival de Cannes 2020. Les amateurs et passionnés seront ravis d'apprendre qu'un événement, certes moins imposant et grandiose, aura tout de même lieu. Puisque sans avoir baissé les bras et souhaitant tout de même mettre à l'honneur le monde du cinéma, dernièrement, une annonce spéciale a été faite. À l'heure où nous sommes à nouveau au cœur d'un deuxième confinement, cette annonce est la bienvenue, dans ce moment où le cinéma peine à voir le bout du tunnel. Bien sûr, pas de tapis rouge ni l'occasion de voir les stars sur leur 31. Cette année, juste un petit événement spécial Cannes 2020 qui a eu lieu du 27 au 29 octobre. Et oui, on peut le dire, c'est un nouvel ère pour le cinéma qui, lui, est à bout de souffle.
Tu penses que l'annulation du festival tel que Cannes est une réalité du monde actuel ?
Oui, parce que Cannes est en quelque sorte le reflet de l'état du monde actuel, un monde en suspens. Cette annulation, elle prouve bien que la planète, elle est au ralenti. Et ce n'est pas Pierre Billard qui dira le contraire, puisque dans son œuvre, il dit une phrase assez intéressante, qui est que l'intérêt du Festival de Cannes, avec son regard panoramique sur la production mondiale, est de permettre une fois par an un point sur l'état du cinéma de la planète. Avec l'annulation des grands films et des événements, on se rend bien compte que l'état du cinéma n'est pas au top en ce moment. Dans tous les cas, il ne faut pas oublier les professionnels tels que les acteurs, qui ont eux aussi un goût amer, déçus de ne plus pouvoir travailler et exercer leur passion, ils sont inquiets.
Il me semble d'ailleurs qu'au mois d'octobre, le magazine La Tribune parle de ce sujet.
Oui, exact. Dans cet article, on retrouve des acteurs qui, je cite, « craignent un effet domino qui aboutirait à une absence de nouveaux films à présenter, à la fois du côté des productions américaines, à l'arrêt, mais également du côté français ». Si leur programmation venait à être jugée insuffisante par les diffuseurs, et puisque les salles sont fermées, la sortie de nouveaux films au cinéma est automatiquement en stand-by. Durant un confinement qui se fait à la maison, les gens veulent s'occuper, et quoi de mieux que de se poser devant un bon film, à grignoter des pop-corn. C'est pour ça qu'au final, le monde du cinéma se voit touché d'une autre façon. Également, notamment avec les spectateurs qui se sont du coup rués vers les plateformes de films, en ligne telles que Netflix ou Amazon Prime.
Que peut-on alors dire sur l'année 2020 et le cinéma ?
Eh bien, qu'elle est clairement l'an zéro du box-office. De nombreux blockbusters se sont vus repousser à cause de la crise sanitaire. Problème majeur qui touche l'univers du cinéma en ce moment. Des gros films prévus à l'affiche tels que Fast and Furious 9, qui est repoussé d'un an, Mulan ou encore Pinocchio. Le film Soul, quant à lui, s'est vu attribuer un autre sort, puisque Disney a carrément décidé de le sortir le 25 décembre, sur sa plateforme en ligne Disney+. Selon le journal Libération, c'est une étape agressive de plus dans une guerre avec Amazon et Netflix, qui redéfinit justement l'âme des studios d'antan, dépendant du box-office des salles. Disney a su mettre ce problème à son avantage. Mais il faut quand même savoir que pour autant, ce n'est pas tant que ça une fatalité pour les salles qui ne sont pas du tout, mais alors pas du tout en train de s'éteindre. Certains pourraient croire que ces plateformes sont la bête noire du cinéma, mais sûrement pas le délégué général du Festival de Cannes, Thierry Frémaux, qui, dans une interview pour le magazine La Croix, a été très clair à ce sujet, puisqu'à la question « Et si les plateformes raflaient la mise ?», il a répondu « Les plateformes ont besoin du cinéma. Nous célébrons cette année les 125 ans du cinéma, fêtera-t-on les 125 ans des plateformes ?» Quand Avengers bat tous les records d'entrée, personne n'annonce la mort des plateformes, mais quand les plateformes ont le vent en poupe, on se dépêche d'annoncer la mort du cinéma. Ainsi, la place du cinéma est si importante que peu importe si ce concurrent de taille se développe, même qu'il fera forcément de l'ombre au 7e art, il ne le fera pas disparaître et n'aura sûrement pas sa peau.
Bien, merci Yélis pour cette chronique enrichissante. Après le cinéma, place maintenant à la chronique rap, et c'est Brian et son sujet sur l'influence culturelle du rap dans la société actuelle qu'on retrouve.
Merci Alice. Bon, pour commencer, j'aimerais vous parler de l'histoire du rap. Le rap est un mouvement culturel et musical prenant ses racines du hip-hop, ayant émergé au début des années 1970 dans les ghettos aux États-Unis. Le rap se caractérise par sa musique très rythmée et des paroles en rime, le plus souvent une succession de couplets séparés par des refrains. Depuis son avènement il y a 40 ans à Brooklyn, le rap ou hip-hop fait et défait les tendances, imposant son style dans les vêtements à porter, la manière de parler et la façon de penser. De la mode au cinéma, en passant par le sport, les influences de cette musique sont omniprésentes. Le rap était avant tout un genre de musique fait pour s'exprimer, pour raconter, que ce soit son vécu, son ressenti, son point de vue sur une situation, ses rêves et une auto-expression de soi-même, mais aussi pour dénoncer des inégalités et protester, le plus souvent contre le système en place. Son influence culturelle dans la société, comme on l'a dit précédemment, le rap a une forte influence artistique sur nos sociétés actuelles, surtout pour les gens âgés de 15 à 28 ans. La mode, lorsque Run DMC a conquis les charts au début des années 1980, des chaussures Adidas aux pieds, tout le monde s'est mis à porter des Adidas. L'esprit corporatif est apparu au début des années 90 lorsque Snoop Dogg a commencé à porter des vêtements de sport Tommy Hilfiger. Ensuite, les artistes ont accaparé le business de la mode. Syncom, BK, Puff Daddy, l'industrie au début des années 2000 avec sa marque Syndrome, alliant le style business et street. Jay-Z avec sa ligne de vêtements Gucci inspirée de Dapper Dan et Kanye West avec sa ligne chic mais basique de chaussures Yeezy en partenariat avec Adidas. De nos jours, ce style est connu sous le nom de streetwear. Son influence dans le sport, prenons l'exemple du rap et du basket qui est fortement lié aux USA. Le basket étant le quatrième sport principal là-bas est fortement apprécié. La grande majorité des rappeurs américains sont fans de basket. Ils n'hésitent pas à faire des références dessus et même acheter des franchises. C'est de même pour les basketteurs, surtout ceux afro-américains qui défendent certains messages de rappeurs et qui ont connu la street culture. L'ancien meneur des 76ers de Philadelphie, Allen Iverson, fait partie des joueurs de basket à avoir enregistré des albums hip-hop, au même titre que Shaquille O'Neal, célèbre joueur de la NBA qui a sorti 5 albums dans les années 90. Son influence dans le langage. Le rap a un langage propre à lui, emprunté des termes issus de l'argot, d'autres langues et mélangé entre eux. Actuellement, il est utilisé par les jeunes et pour quelques-uns qui n'écoutent pas le rap, il serait incompréhensible. Il est bon de noter que ce langage est également en constante évolution. On pourrait qualifier cela de langage crypté. Ce langage est pour la plupart du temps du trash talking, un langage plutôt vulgaire ou qui exprime une grosse violence. C'est proprement lié à la culture afro-américaine. Parmi ces nouvelles expressions, on a par exemple des expressions telles que gold digger pour qualifier une croqueuse de diamants, ghetto bird pour dire un hélicoptère de police ou house pour qualifier une fille facile. Et il en existe encore plusieurs. Parlons maintenant de la centralisation de tout cela en France. Lorsque le rap et hip-hop apparaissent en France au tournant des années 80, nombreux sont ceux qui n'y voient qu'un phénomène éphémère. Hors de nos jours, c'est le genre musical le plus écouté avec la pop. Au niveau de la mode, le rap a une forte influence. Les jeunes Français également, surtout ceux ayant grandi dans des milieux pas très favorisants avec le style racaille. Les rappeurs sont des influenceurs et les styles vestimentaires attirent de nombreuses personnes. Des survêtements Lacoste au Nike, mais encore le port d'accessoires comme des chaînes et des drills, plus aux USA, mais ils commencent à arriver en France. Comme aux États-Unis, le sport est étroitement lié au rap. Mais cette fois, ce sera plus dans le milieu du foot, avec des références à ne plus compter. Certains joueurs de foot et des rappeurs collaborent ou se montrent ensemble sur les réseaux sociaux, comme Karim Benzema et Booba. Les clashs entre les rappeurs peuvent aussi donner lieu à des événements comme un match d'MMA, notamment entre Booba et Kaaris. Mais là où l'influence du rap est le plus identifiable est certainement dans le langage et la manière de parler. Des dizaines, voire centaines de mots ont été créés avec le rap. Et cela continue toujours. Il existe même des émissions comme le Lexique de la Street, disponible sur YouTube par Combini, ou des livres comme Les mots du bitume d'Aurore Vincenti, Le rap comme poétique du langage ordinaire de Manon Labouri. Voici quelques exemples de mots. Seum pour dire énervé, agacé ou dégoûté. Igo pour dire ami ou frère. Condé pour parler des policiers. Et Hagar pour frapper.
Et c'est la fin de notre émission. Merci à nos chroniqueurs. Merci à nos auditeurs d'être aussi nombreux et présents sur les réseaux sociaux. Vous pouvez réécouter cette émission sur notre site web www.studiogaco.fr. N'hésitez pas à réagir sur notre Twitter Gaco Studio. N'oubliez pas de vous abonner. À bientôt pour de nouvelles chroniques dans Studio Gaco.